Et Tchoumo Football Club.
C'est ensemble qu'on y arrive.
Rira Ayoli.
Radio Tchoumo, le son du Wild, Ayoli.
Ayoli à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Tchoumo sur Radio Galère 88.4 FM, Radio Tchoumo, le son du Y, Radio Tchoumo, la radio des gens qui font bouger ton quartier. Pour cette émission, on est en compagnie du frérot qui fait son grand retour au Chichidor qui n'était pas venu depuis la première émission. Salut frérot.
Adi Wentuti.
Ayoli. Et on est en compagnie de Thierry Audibert qui nous fait l'honneur de venir pour la première fois à Radio Tchoumo sur Radio Galère. Merci Thierry.
Merci à toi et à vous pour l'invitation et à Yoli et à tout le monde.
Yoli. Et évidemment, vous le connaissez aussi, il y a Renaud qui est autour du plateau.
Bonjour.
Ouais, voilà, toujours sympathique.
Très sympa. Très sympathique.
Alors, le programme du jour, quel est-il ? On va commencer, on va profiter de la venue de nos deux invités pour faire un petit hommage et un petit point pour vous parler de l'auteur marseillais Henri-Frédéric Blanc, qui nous a tristement quittés en ce début d'année 2025. On fera également ensuite un petit retour sur le concert pour la paix qui a eu lieu au Sismic en février, avec un petit interview de Mousse, de Mousse et Hakim, et Seb qui représente le quasi des cheminots. Et enfin, on vous parlera du Balletti des Rails qui aura lieu le 15 mars à l'intermédiaire avec un interview du frérot Jack Dish et Renaud qui nous donnera les détails de la soirée. On va commencer directement avec Thierry et Chichi pour nous parler d'André Frédéric Blanc. Rebonjour les amis.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, bon, Chichi, nos auditeurs te connaissent, ils connaissent Chichi et Banane. Thierry, c'est peut-être un peu moins le cas. Est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter les relations que tu avais avec Henri-Frédéric Blanc, s'il te plaît ?
Eh bien, je m'appelle Thierry Audibert, j'ai 64 ans bientôt, je suis marseillais et de métier, si tu veux, j'ai fait carrière dans les métiers de la librairie et de l'édition. Voilà, j'étais un peu entre les deux, j'ai commencé comme libraire, j'ai créé une librairie en 1986 et puis... je suis encore dans ces milieux, mais je suis passé de l'autre côté un jour, à partir de 1998. Je suis passé du côté de ce qu'on appelle les représentants, ceux qui travaillent pour des diffuseurs-distributeurs et qui visitent les librairies. Voilà.
D'accord.
Donc je suis encore actuellement dans un poste où je visite les librairies du Sud-Est. Voilà.
D'accord. Et vous vous connaissez hein, tous les deux, je crois bien.
On se connaît, bien entendu. On s'est rencontrés grâce à une libraire, d'ailleurs, Valérie de la librairie de la Ciotat, que je considère comme être une des meilleures libraires du Sud-Est, en tout cas de la région que je couvre, moi.
D'accord, ça c'est un
parce
compliment.
Parce qu'elle a toujours des choix très pertinents, un peu singuliers. Elle ne va pas sur les sentiers battus. Vraiment, c'est une librairie que je conseille à tout le monde, même s'il va peut-être faire des jaloux s'il y a d'autres librairies qui écoutent. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés là-bas la première fois, je crois, à l'occasion d'une lecture, justement, d'Henri-Frédéric Blanc, qui avait été initié par Valérie, sachant tout l'amour qu'avait Chichi pour l'art d'aimer à Marseille.
C'est vrai, ouais. Merci Valérie. Hein. Le nom de la librairie, c'est Au Poivre d'Âne. C'est sur les quais du Vieux-Port, à La Ciotat. Et en effet, c'est une librairie d'avant-garde magnifique.
Alors,
j'y étais.
Et alors, c'était bien ?
C'était Gigi.
Mais donc c'était très bien, parce que c'est toujours très bien quand c'est Chichi. Je n'aime pas...
Non, c'était les prémices de ce que c'est devenu et c'était une très belle soirée. Je me rappelle d'un Chichi ému.
Oui, ben oui, évidemment, puisque c'est Henri qui m'a donné l'envie, qui m'a donné le courage en fait de me dresser sur une chaise. J'écrivais déjà quelques textes à l'époque, mais j'osais pas dire mes propres textes. Et c'est vrai que quand j'ai lu les siens, je me suis dit là, c'est pas possible. Ça, c'est exactement ce que j'attendais, quoi. C'est ce que j'aurais voulu écrire quelque part. Et voilà.
D'accord.
Il me semble même qu'il y avait Gilles Ascaride.
Oui, tout à fait. Il y avait Gilles Ascaride.
Oui, oui, oui. Alors, c'était assez épique. Ouais. Mais bon, on va pas rien révéler. Là, ça, parce que ça a été très rigolo dans l'organisation. Ouais.
il y a des coulisses.
Ouais.
Oui.
Thierry, j'ai vu que toi aussi, tu es un peu fait comme Chichi. Tu es monté sur les planches. J'ai vu que tu avais porté sur scène, en fait, récité, lu, j'ai pas très bien compris ça par contre, la différence, un ouvrage d'Henri Frédéric Blanc, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors bon, moi j'étais pas du tout programmé pour ça, hein. J'ai jamais fantasmé d'aller sur scène, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai... Alors j'ai pratiqué à la fac, parce que initialement je voulais être réalisateur.
D'accord.
Et donc j'avais suivi un cursus à l'Université de Provence, à la fac de lettres, un cursus de cinéma, voilà, qui se faisait à l'époque sur 3 ans, mais que j'ai pu faire en 2 ans. Et puis je m'étais dit, il faut que tu connaisses les acteurs, que tu puisses être capable de leur parler, donc il faut que tu passes par là. Donc il y avait aussi à la fac un truc qui s'appelait Institut de formation des comédiens animateurs. Et dans ce cadre-là, j'ai fait du travail d'acteur. J'avais une 20aine d'années. Et les expériences que j'ai eues de la scène m'ont fait penser que j'étais pas du tout fait pour ça et que c'était pas mon truc et que j'avais rien à faire là, quoi. Mais par contre, oui, je voulais travailler avec des acteurs. Et puis, bon, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages. Et puis un jour, finalement, j'ai senti que j'allais galérer longtemps dans ma vie et que ça allait être compliqué pour manger et pour avoir une vie normale. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé une librairie. Voilà. Parce que je passais beaucoup de temps dans les librairies aussi en même temps. Et que c'était un peu ma deuxième maison. Donc, à la faveur de ça, arrive le confinement. Donc, on est là bien des années plus tard. On est en 2020. J'ai une 60aine d'années. Et puis, je m'emmerde à la maison et je me dis, je vais apprendre des textes comme ça, tous les jours, faire rentrer des belles choses et puis travailler la mémoire et puis pouvoir dire de la poésie. Alors, j'ai commencé par des poésies que je prenais dans des recueils comme ça tous les jours. Et puis, j'apprenais. Et puis après, hop, je la récitais et puis je passais à autre chose. Et puis, au bout du 4e jour, je vais réouvrir le livre de Joby. D'Henri Frédéric Blanc, et puis je me dis, je vais apprendre 4 pages histoire de le faire tout seul dans le salon, quoi. Et c'est parti comme ça, voilà. De 4 pages, ça m'a fait rire. J'ai appris 4 autres pages, et puis une dizaine de pages. Et puis au fur et à mesure que j'apprenais, j'allais très vite, et je me suis retrouvé avec 1 heure de texte. Et c'est en ayant 1 heure de texte que j'ai appelé Henri Frédéric Blanc. Et que je lui ai dit, tu sais ce que je suis en train de faire, tout ça. Et puis il m'a dit, non, ça y est. Alors, il m'a dit, je viens voir. Et donc il est venu à la maison, je lui ai fait. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, c'est trop drôle, vas-y, fais-le. Et puis voilà. Et puis le truc s'est transformé parce que je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire. Quand on sort du confinement, on fera, on prendra une salle et on fera venir nos amis et on le fera pour les amis. Et il m'a dit, ok. Et puis au fur et à mesure que moi, j'ai commencé à travailler ce texte, finalement il m'a dit, mais si tu veux répéter dans une salle un peu plus grande, on peut aller au Tourski. On va au Tourski dans une petite salle qui est au sous-sol et que les gens ne connaissent pas, mais qui est très bien équipée. C'est une jolie scène en bois avec des fauteuils rouges, voilà, c'est vrai, une vraie petite salle de spectacle. Et puis là, tout d'un coup, je me suis senti super bien. On rencontre Richard Martin juste quand on sort, qui nous fait, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc on lui explique. Et Richard Martin me regarde et il me dit, écoute, je veux que tu reviennes et je veux être là et je veux t'entendre. Et donc, je suis revenu 15 jours après et je me retrouve, c'est là que c'est fou quand même, à 60 balais, sur la scène de la salle Léo Ferré, que Richard Martin m'ouvre. Moi, je pensais qu'on allait aller dans la petite salle en dessous. Il me dit, non, on va là. La salle qui est la petite salle du Tourski, elle fait 220 places, c'est pas les 600 de la grande salle. Tout d'un coup, m'apparaît immense et il me dit, vas-y, va sur la scène. Et lui, il se met au dernier rang. Il était venu avec un lumbago. En plus, il était plié en deux. Et j'ai dit, mais il ne fallait pas venir, Richard. Il me dit, non, je t'ai dit que je viendrais, je suis là. Et donc, je me retrouve sur cette scène avec, dans la salle, Richard Martin et Henri Frédéric Blanc. Et Richard Martin qui me fait, vas-y, envoie, quoi. Et alors, il m'avait dit, tu en as pour combien de temps? J'ai dit, ouais, j'en ai pour 1h20, 1h25. Et donc, je fais mon truc. Et puis, je le vois, lui, ici. Vraiment, il était plié en deux, il cherchait la bonne position constamment, et puis moi, ça me gênait. Donc, il le faisait chaque fois. Il était à l'écoute et tout, et puis finalement, je termine. Et puis, il me dit, tu sais que tu as fait 2 heures. Je lui dis, non. Il me fait, oui, non, tu as fait 1h50, quoi. Et puis là, il est resté 1 heure à m'expliquer comment je devais m'y prendre pour continuer. Et il me dit cette chose extraordinaire, il me dit, à partir de maintenant, tu es chez toi ici, tu viens quand tu veux.
Wow.
C'est ton théâtre.
Wow.
Si tu peux pas te mettre là, tu peux te mettre là, tu peux te mettre là, tu vas te mettre là. Mais tant que tu veux avancer, je te sens lucide et perspicace, avance. Et à force d'y aller tous les jours, pendant le confinement, pendant mes jours de congé, pendant les jours de congé partiel, etc., ben là, voilà, j'ai senti que la scène, il fallait que je passe le reste de mon temps dessus. Je me sens super
sur bien. Scène, ouais.
Voilà. Donc, c'est comment c'est venu. Et donc, le livre de Joby est devenu un vrai spectacle. Voilà.
D'accord. Et du coup, on comprend dans ce que tu nous as raconté que Henri était absolument enchanté et trouvait ça voyait ça d'un super bon œil, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, tu me disais tout à l'heure comment je l'ai connu. Donc, tu vois que Chichi l'appelle Henri et moi je l'appelle Frédéric. Alors, lui, il acceptait les deux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est Frédéric en fait dans sa famille.
D'accord.
Ouais, tu as toujours appelé Frédéric et moi je l'ai connu à l'époque. Il était avec une compagne. C'est dans les années 90. Je pourrais vite raconter comment il s'est connu, parce que c'est lui qui prend contact avec moi. Mais oui, c'était Frédéric. On l'appelait Frédéric, quoi.
D'accord.
Mais il acceptait les deux, puisque bon, il n'aimait pas un prénom plutôt qu'un autre. Hein. Voilà, c'était compliqué de dire Henri Frédéric. Voilà. Et oui, il était content que je fasse ce texte, parce que moi je lui ai toujours dit, ça, c'est ton livre culte, ça, enfin, parce que le livre de Joby est un livre très riche, codé. Moi-même, en le jouant plusieurs fois, souvent, je me dis, quand j'arrive à certains passages, je me dis, ah merde, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu que ça pouvait être tel sens, que ça pouvait être tel sens, etc. C'est très ouvert, en fait. Et donc, j'ai énormément de plaisir à le faire. Et puis, j'en prépare un autre avec d'autres textes d'Henri-Frédéric Blanc. Ouais.
D'accord. Eh ben, c'est une super transition que tu me fais, parce que j'ai envie de vous poser aussi la question de son style, en fait, aussi en tant qu'auteur. Tu parles d'une certaine complexité qui peut avoir en ayant des relectures. Mais il y avait aussi beaucoup d'humour dans son style quand même, aussi chichi peut-être.
Oui, oui, ben c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est vraiment truculent, puisque il écrivait comme on parle en fait. Hein. Et c'est ça qui m'a fasciné, parce que c'était aussi mon idée. C'est ce que je faisais, écrire comme on parle et sauver. On voit bien que les accents et la façon de parler disparaissent à une vitesse folle, et évoluent en tout cas. Et donc, laisser un témoignage de comment on parle, comment on s'exprime à Marseille actuellement, c'était très important pour lui et très important pour moi aussi.
Disons qu'il avait horreur de l'esprit de sérieux. Voilà, il détestait quand on commençait à prendre la littérature un peu trop au sérieux. Voilà, il détestait les styles ampoulés, il détestait les écrivains qui se regardent écrire, qui font de la belle phrase, ceux qui utilisent toutes les conventions possibles, alors que lui, il les fuyait. Et puis bon, voilà, il était absolument, il n'aimait pas ce genre de littérature qu'il considérait comme une littérature morte. Effectivement, il faisait résonner le son marseillais, mais paradoxalement, si tu regardes bien l'ensemble de ses livres, il utilise assez peu les mots du marseillais ou du provençal. Il n'a pas du tout fleuri ses livres de notre langage. Hein, et par contre, c'est dans la sonorité, dans la tournure des phrases, dans sa façon, parce que parfois, on a une façon de dire qui est on inverse parfois le verbe. On met pas forcément les mots à la place qui convient, et c'est en ça qu'il arrive à donner quelque chose qui, comme le disait Chichi, ressemble à du langage parlé, du langage quotidien, mais en fait ça n'en est pas, parce que c'est un gros travail de réécriture qui lui demandait paradoxalement beaucoup de temps pour que ça sonne bien, que ça soit bien écrit et que ça soit puisse être dit surtout à haute voix, parce que ça, il tenait justement à ce que ces livres puissent être lus à haute voix et dit.
D'accord, donc c'était vraiment au cœur de sa démarche, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver la musique du parler marseillais sans le lexique, en fait.
Tout à fait, oui. Si tu regardes le livre de Joby, alors il y a Couille, il y a Mounine Pachol, si tu veux, mais c'est les deux seuls mots, je veux dire, un peu comme ça, qualifiés de vulgaire que tu vas trouver, c'est tout. Mais bon, ça suffit parfois, parce que j'ai eu le souci dans une dans un petit festival à Avignon où le directeur de la salle m'a dit mais écoute je pensais pas que c'était aussi vulgaire quoi. Je dis mais c'est où c'est vulgaire? Il me dit mais il y a Mounine, Pachol. Je dis voilà, il faut pas rigoler quand même, c'est des mots qu'on emploie dans la cour de récréation hein, quand on a 10 ans quoi. Donc,
oui.
Mais bon ouais effectivement il y a la plupart du temps il y a très peu de mots du Marseillais dans ces livres. Il y a beaucoup de jeux avec la langue, hein, de jeux de mots. Mais,
c'est ça, c'est la question d'après que j'allais vous poser, ouais.
Sauf quand il faisait parler les cagoles, parce que là, tu retrouves des choses.
Alors, mais même les cagoles, hein. Quand tu lis les cagoles, tu t'aperçois qu'il n'y a pas énormément de choses marseillaises, quoi. C'est dans le ton qu'il arrive à te donner cette impression, mais souvent, c'est des mots à lui, des mots qui trafiquent, qui voilà, ils jouent avec la langue, ils jouent avec les mots, mais tu en fait tu entends la cagole, tu entends l'accent, mais tu as pas de mots marseillais quoi.
Eh bien, très peu. Oui, très peu, mais c'est vrai qu'il écrivait quand même. Alors peut-être on aura, je sais pas si on va faire de la lecture peut-être un peu tout à l'heure. Et justement, là, j'en ai un sur les cagoles. Alors attends.
T'anticipes, Chichi, t'anticipes. Mais... Tu es en avance sur le programme, là.
Non, laisse-le anticiper.
Alors, et alors, là, je vois, par exemple, sur Gilberte, quand il fait parler Gilberte, il dit « T'as vu le Mucem ?» C'était sa façon d'écrire. Là, il dit « T'as vu ?» C'était au lieu de « Tu as vu, évidemment. » Et le Mucem, M-U-2-S-E-M-E. Et donc, il y a quelques mots comme ça qui l'exagéraient un peu, où il mettait, là, j'en ai vu un aussi ce matin en regardant, où il mettait le « ng » avec un « g », là, le « ng », il rajoutait le « g ». Et je me souviens d'ailleurs d'une fois, puisque je me suis toujours posé la question, moi, quand j'ai écrit, je dis « tia ». Et je l'avais appelé, et je ne savais pas comment il fallait que je l'écrive, ce « tia » dans mes textes. Alors, je lui avais demandé, qu'est-ce que tu en penses, Henri? Comment je pourrais l'écrire, ce tia? Il me dit, oh, t'emmerdes pas, tu l'écris comme tu l'entends, TIA.
Et voilà. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que tu l'écris.
C'est comme ça que je l'écris.
Ah putain, c'est trop bien.
Et dans le cagole, je me rappelle, parce que effectivement, ça, je l'avais filmé. Donc, ça me revient facilement dans la mémoire. Mais à un moment, il y a une cagole qui parle et qui dit, au lieu de dire, tu subiras les regards des hommes, c'est tu subiteras les regards des hommes.
Vous voyez, même là, rien qu'en racontant, on en rigole encore. On va faire une petite pause, les amis, on revient juste après, toujours pour parler d'Henri-Frédéric Blanc. Petite coupure musicale avec Moussuté et les Jovain autour de la corniche.
Notre vieux port, on est bien plus fort. On ne va jamais chercher d'autres décors. Arrose ou toi d'homme qui ne dit pas non. On propose sa façon. Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux en tramway comme des riches. Entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, nos cœurs tendrement font des beaux rêves. Nous croirons, tu verras, dans un si ben je le long de la rivière. Car lorsqu'on s'aime, d'amour extrême, tout paraît plus beau ici-bas. Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux en tramway comme des riches. Nous trouverons au retour notre bonheur, notre jeunesse et notre amour. Et tout le long du voyage, bien qu'on l'ait fait mille fois au moins, charmé par le paysage, on s'estasie malgré soi. Quel ton chatoyant, quel tableau charmant, le soleil est un peintre de grand talent. Quand on est blasé, on plaît les fauchés qui font le voyage à pied. Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux en tramway comme des riches. Entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève,
fino che tendremo fa tempo breve. Non qua non ci verrà da gessi peggio le l'on della riviera. Carlos consema d'amore extrême, tu pare più poi si va. Si tu veux tout autour de la corriche, tous les deux entramouis comme des riches. Nous trouverons nos retours, notre bonheur, notre jeunesse et notre amour.
Retour sur toujours sur Radio Chomo, sur Radio Galère 88.4 FM, toujours en compagnie de Chichi et de Thierry, de Jackie, toujours pour parler de Henri Frédéric Blanc.
Il mange sur le gazole.
Ah oui, c'est vrai que tu es là, toi.
Merci.
Voilà, mais tu n'es pas un invité, toi.
Non, toi,
tu fais partie des piliers, on va dire.
Ouais, des pieds de table.
Alors, on parlait de son style et on a parlé de l'humour. Mais moi je voulais te demander, Chichi, est-ce que il y a quelque chose, toi, vraiment qui toi t'as parlé de ce qui t'a fait kiffer, de vraiment l'humour que tu rigolais en l'écoutant, en le lisant, mais il y a quoi aussi qui t'a plu, on va dire, dans son œuvre, dans son style, dans ses ouvrages? Qu'est-ce qui toi, en tant que lecteur, t'as fait kiffer, tout simplement?
Alors, le premier ouvrage que j'ai lu, c'est L'art d'aimer à Marseille. Et non content, voilà, en effet, d'écrire comme on parle, il écrivait, en tout cas, L'art d'aimer à Marseille particulièrement, il écrit quasiment en rime. C'est assez incroyable, c'est une prose en rime. Et il y a une musique. Une musique naturelle, amis, pour nous autres qui parlons marseillais. Il y a vraiment une musique naturelle dans ce livre qui fait que
on se quitte avec
la lecture
une musique ensuite de Jack Dish Connection.
Et en même temps
le
facile, en même temps tellement poétique.
Les amis, et donc ça a été une source d'inspiration pour Chichi et Banane, dans ce que tu as écrit dans Chichi et Banane.
Oui, bien sûr, on a même repris le texte du pastis. Parce que j'avais écrit un texte. J'essayais d'écrire un texte sur le pastis.
On se retrouve nous le mois prochain.
Et puis un jour, une copine, Ingrid, me dit: tiens, regarde, lis ce livre, tu vas te régaler.
Et c'était lequel?
Et c'était L'art d'aimer à Marseille. C'est la première fois. C'est comme ça que j'ai découvert Henri. Et puis je suis tombé sur le texte du pastis. Et bon, là, j'ai couché la plume. Avec Banane, on a décidé plus tard, d'ailleurs, après l'avoir déclamé des centaines de fois dans les bars, dans les restaurants, debout sur une chaise, ce texte, on a décidé avec Banane de l'enregistrer sur notre premier album, avec son accord, bien sûr, et voilà.
Alors,
le texte du pastis, c'est un extrait de L'art d'aimer à Marseille, voilà. C'est un tout petit bout qui parle du pastis.
Voilà ce petit lait. Alors, on a pas mal parlé de son style, on a parlé de l'humour, on a aussi parlé que c'était pas juste de l'humour pour de l'humour. J'ai vu aussi, et là je compte sur vous pour compléter, qu'il y avait aussi pas mal de, comment dire, presque un peu de satire. J'ai vu qu'il avait fait notamment une satire de l'Académie française, et on revient sur ce que tu nous disais, qu'il aimait pas les écritures trop normées. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui, ce côté... liberté d'écriture, on va dire, à défaut d'avoir de meilleurs termes qui me vient.
Oui, lui il a fui la convention. Bon, il a un départ, les premiers livres chez Actes Sud sont des romans, on va dire, traditionnels, où déjà perce sa singularité à travers ses personnages. Oui. Mais il n'est pas à l'aise avec ça, parce que il se sent dans une fabrication qui ne lui convient pas. Voilà, lui se définissait comme artiste-écrivain. Donc l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui va chercher des formes, qui va chercher à faire péter un peu les murs de, de son moyen d'expression. Et la farce était pour lui un bon moyen pour ça. C'était son côté rabelaisien, quoi. Il est revenu à cette forme-là. Et c'est là qu'il a rencontré un peu, peut-être l'incompréhension, hein, dans les milieux littéraires traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi quelqu'un qui est capable de faire des romans, tout à fait lambda, tout d'un coup aller vers ça, quoi. Voilà.
Surtout qu'en plus la farce est un genre, bon, déjà comment dire, d'une autre époque, on va dire, si je respectueusement, mais en plus ça a toujours été un genre un petit peu dénigré, vu comme un art un peu populaire, alors qu'il y avait une forme d'écriture plus noble, entre guillemets, quoi.
Oui c'est ça.
Donc ça a peut-être joué sur ça aussi.
Il voulait comment dire, il voulait inventer sa propre forme, et je crois qu'il y est parvenu. Donc ça passait beaucoup par le pastiche, parce qu'il se moquait beaucoup des manies littéraires, quoi. Voilà. Donc par exemple
dans
le livre de Joby, tu as souvent le personnage du narrateur qui s'adresse directement aux gens. Alors dans le livre, il s'adresse au lecteur, et puis moi, dans le spectacle, je m'adresse au spectateur. Et il y a souvent cette formule alors fidèle ou chrétien, voilà. Et j'avais dit, mais pourquoi le personnage il parle comme ça? Et il m'a dit bah parce que en fait c'est Bossuet qui m'a toujours fait rire, parce qu'il était grandiloquent, emphatique, et qui s'adressait toujours aux chrétiens pour lui apporter la bonne parole. Et il dit, voilà, c'était ma façon de jouer avec ça, quoi. Voilà.
De tourner en dérision
il le faisait souvent. Il a, dans la revue Les Archers, qui était coédité par le Tourski, il y avait souvent des aphorismes. Voilà, il transformait beaucoup. C'était un spécialiste de toute la philosophie orientale, et proche orientale, et il adorait. Ben, on le voit dans Ainsi parlait Fredo le Fada. Hein, ça, c'est là que ça apparaît le plus fort. Mais voilà, il adorait jouer avec ces formes-là, quoi.
Alors, tu as parlé de philosophie orientale. Est-ce que ça se traduisait comment, en fait, dans ses écrits? Je t'ai vu Chichi hocher la tête quand il parlait de ça. Est-ce que on retrouvait des références, ou est-ce qu'il citait directement des penseurs, ou c'était un peu plus subtil que ça? Est-ce que on retrouvait des thèmes?
Oui, ça, il pouvait parfois, mais parfois il inventait les penseurs. Il recomposait même le nom du penseur. Alors il y en a un, là, il ne me revient pas juste en tête immédiatement, bon, ça c'est l'âge, mais voilà, il jouait avec ça, quoi. Hein, c'est, et ben voilà, j'avais voulu dire un truc, ça m'a échappé.
C'est déjà pas mal. Chichi, toi aussi, dans ces, voilà, les on parle justement un peu de ce côté un peu satirique, toi c'est quelque chose que tu as identifié, qui t'a plu dans ces textes aussi?
Oui, bien sûr. Évidemment, la satire, ça faisait partie de sa façon d'écrire, de sa pensée. Hein. Elle est partout, hein, comme disait Thierry. Elle est partout.
Oui, en fait, quand on lit du Henri Frédéric Blanc, et ça, je pense que tu as dû le ressentir aussi, moi, il a écrit près de 40 livres, et j'ai toujours ressenti ça. C'est-à-dire, tu prenais à nouveau Henri Frédéric Blanc, tu retrouvais quelque chose que tu connais, et à chaque fois tu étais quand même surpris, et tu redécouvrais, et parfois tu riais presque de la même chose que dans le livre d'avant, mais d'une autre façon,
d'une autre manière.
Voilà, ouais. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est fou, c'est que bon, il se trouve que les rapports d'amitié que nous avions étaient si serrés que finalement, j'ai encore aujourd'hui la clé de son appartement, que sa nièce m'a laissé. Et que quand il a su qu'il était malade, il m'a fait venir chez lui, il m'a montré toutes les choses importantes qu'il fallait récupérer. Et il m'a montré où était sa thèse. Et son premier roman, parce que Henri Frédéric Blanc avait une thèse de doctorat troisième cycle en philosophie.
D'accord, ce qui est quand même pas rien.
Ouais, et bon, bien entendu, il trouvait que c'est quelqu'un qui a tout donné à la littérature, et pour qui la littérature était tout. Mm-hmm. Voilà. Et la littérature, pour lui, était plus importante que la philosophie. Et il n'aimait pas forcément dire que, en fait, son doctorat, c'était en philosophie qu'il avait, parce qu'il considérait que la philosophie, finalement, c'est de la pure abstraction, alors que la littérature, c'est la vérité. Que la littérature, en fait, toutes les idées naissent de la littérature, et toutes les grandes sociétés, se sont faites à partir de la littérature et non pas de la philosophie.
C'est très intéressant comme point de vue. Hein.
Voilà, alors ça, vous pouvez le retrouver. Il y a une superbe conférence qu'il avait faite il y a 2 ans à l'Alcazar. Et donc, vous tapez sur YouTube Alcazar Henri-Frédéric Blanc, vous allez tomber dessus. Il y en a pour presque 2 heures. Et là, vous avez un concentré de la pensée d'Henri-Frédéric Blanc, même si parfois, parce que bon, c'était sa caractéristique, ça, il était un peu long à parler, à trouver les mots, parce qu'il voulait toujours trouver le mot juste. Et il n'était pas du tout à l'aise avec l'art oratoire. Et chaque fois, il me disait « Ah putain, qu'est-ce que je suis mauvais !» etc. Je disais « Mais non, mais t'es juste un diesel !» Parce qu'il fallait qu'il soit lancé, et puis après, il était très très bon. Mais en fait, sa thèse de troisième cycle s'appelle... Alors peut-être qu'il faut s'accrocher, hein, je suis en train d'essayer de la lire, j'ai du mal. Ça s'appelle « La subjectivité dans l'expression littéraire et artistique ».
Waouh.
Et en fait...
Fascinant.
Ouais, toute son œuvre, en fait, tu t'aperçois que elle était déjà dans sa façon d'écrire, sa façon de jouer avec la narration et de prendre sa distance avec la narration directe, habituelle.
Classique, entre guillemets.
Tout était déjà là, quoi. Et donc, il avait 26 ans, quoi. On peut dire que son œuvre, en fait, c'est un projet littéraire. Et que je pense qu'il l'a mené jusqu'au bout. Mmh. Et c'est en ça qu'il a cette singularité, qu'il est drôle, et que je fais partie de ceux, et on est nombreux, je trouve, à penser que dans 100 ans, peut-être même 150, on lira encore Henri-Frédéric Blanc quand d'autres qui sont à la mode aujourd'hui auront totalement disparu. Dont les livres sont complètement oubliés. Je pense que lui, il y aura encore des gens qui vont dire, mais qui était ce mec, quoi, et qui auront du plaisir à le découvrir et à le redécouvrir.
Puis il avait une façon de lire qui était mais tordante. Moi, la première fois, alors pour certains, il était d'aucuns disaient qu'il était ennuyeux, qu'il était mais alors moi pas du tout, il me faisait mourir de rire. Il lisait sur un ton monocorde et l'inverse de moi qui en fait des tonnes, qui suis plein d'emphase et tout, mais alors lui c'était vraiment monocorde, mais alors avec un humour qui se dégageait de cette monotonie incroyable. C'était, quand je l'ai entendu pour la première fois lire, j'étais spanté, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu nous disais sur dans 100 ans, dans 150 ans, parce que en préparant cette émission et en parlant avec Renaud, on a quand même été surpris un petit peu de voir que sa disparition était presque passée inaperçue, quoi. C'est ça qui, ça nous a...
Bah, c'est tout le paradoxe de Blanc, c'est-à-dire qu'il a des fans un peu partout, mais très disséminés dans le pays. Et on peut dire même dans le monde entier, parce qu'on ne rappelle jamais assez qu'il était traduit en 12 langues. Là où des auteurs, même connus aujourd'hui, qui marchent très très bien, sont traduits en 5-6 langues, pas plus. Mais lui, il y a du Henri-Frédéric Blanc en coréen, il y a du Henri-Frédéric Blanc en finnois. Voilà, il y a quand même 12 pays qui ont pu lire du Henri-Frédéric Blanc. Donc, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui est passé, qui a dû... Voilà. Et paradoxalement, la critique littéraire bien pensante s'en est éloignée. Alors, il a eu des papiers lorsqu'il était chez Actes Sud, un peu quand il est ensuite passé chez Flammarion, un peu au Rocher, et puis petit à petit, en fait, lui s'est tourné entièrement vers Marseille, et puis c'était pas quelqu'un de réseau. La bien-pensance littéraire l'a un peu ignoré. Et au point qu'aujourd'hui, c'est ça qui est fou, d'ailleurs j'en parlais avec toi tout à l'heure dans la voiture, mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui parle le mieux d'Henri-Frédéric Blanc, là où les gens dont c'est devrait être le métier, ou les gens qui devraient s'intéresser à toutes les formes d'écriture, l'ont complètement ignoré. Ils sont incapables d'aller chercher vraiment tout ce qui peut être dit, tout ce qui a pu être communiqué sur Henri-Frédéric Blanc. C'est l'intelligence artificielle qui le restitue le mieux, quoi. Et c'est ça qui est fou, quoi. J'ai un ami qui a fait une recherche. Alors moi, j'en ai fait une sur ChatGPT, et d'ailleurs c'était de son vivant puisqu'on en avait parlé, et on était mort de rire parce que l'intelligence artificielle ChatGPT lui inventait des livres qu'il n'a pas écrits. Alors que c'est notre ami Jean-Marc Valadier des éditions du Choupelan qui lui a pris une autre AI et effectivement qui a sorti un truc, mais c'est vachement bien quoi. C'est tout à fait ça, c'est super bien senti. Et bon voilà, y a, malheureusement, non, y a, le monde littéraire l'a totalement ignoré à partir du moment où il est rentré dans les cases, en fait. Il est allé vers la marseillitude, vers ce qui a été appelé over-littérature aussi, dans lequel il était, mais bon, avec un peu plus de distance vers la fin.
Alors ça, parle-nous, parce que justement, c'est quand tu as fait des recherches sur Frédéric Blanc et qu'on va voir un petit peu des articles sur lui dans sa carrière, c'est un terme qui revient souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
La marseillitude ?
Non, over-littérature.
Ah, over-littérature. Ben, over-littérature... Alors, over littérature, c'en est d'une expression de Philippe Carrez. Un jour, au cours d'une manifestation littéraire, ou je ne sais plus exactement, où il a dit mais c'était à l'époque où Carrez faisait du polar marseillais, quoi. Il dit nous, en fait, on fait pas de la littérature. Ce qu'on fait, c'est un peu over. O-V-E-R, over. C'est de l'over littérature. Voilà. Ascaride a entendu ça, il a dit mais c'est génial, c'est ça, voilà. Et donc à partir de là, ils se sont mis à essayer de définir ce qu'était la marseillitude, l'overlittérature. Donc c'est, je ne rappelle plus la définition, sinon on l'a dans tous les livres, enfin dans pas mal de bouquins, mais c'est une littérature iconoclaste qui est volontairement de mauvais goût. Voilà, c'est un peu tout ça quoi. Je sais pas si chichi là peut-être.
J'ai trouvé over littérature ou nouvelle littérature marseillaise mondiale. Littérature crue, iconoclaste, qui se caractérise par son réalisme burlesque, son mauvais goût assumé, son irrespect total, sa marseillitude joyeuse, loin de tout régionalisme, et le recours méthodique aux armes de la dérision et de la satire. Pétrone est considéré comme le saint patron de l'over littérature. Et donc Henri Frédéric Blanc en était le
pape,
sa sainteté, Henri Frédéric Ier. Et il a sacré donc Gilles Ascaride, roi de l'ouvert littérature, sous le nom de règne Gilles Ier l'excessif.
Donc ils ont joué un petit peu quand même de ce...
Oui. Après, malheureusement, je crois que ça s'est un peu refermé sur eux. Bon, voilà, il y a eu... Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est une question de personnalité. Après, voilà, Carrez n'est pas rentré dans le truc, il n'est pas revenu, ni Scotto, voilà, personne.
Ils n'ont pas un peu, à un moment, poussé un peu. Il n'y a pas Contrucci qui a sorti un livre sur l'over littérature.
Alors, Jean Contrucci a sorti une fausse histoire de Marseille, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, au Fiupella.
Ouais, voilà, et ouais, je crois que c'est un peu considéré comme un des rares livres de Contrucci, comme de l'over littérature.
Ah ben c'est le seul, hein, c'est ça. Ouais, c'est la seule construction de Jean Contrucci, alors, qui est un ami. Et alors, la particularité de Jean Contrucci, c'est qu'il a fait des ouvrages plutôt sérieux, c'est plutôt quelqu'un qu'on pense un peu austère, un homme de connaissance qui a écrit des tas de livres sur Marseille. D'abord, il a écrit une magnifique histoire de Marseille avec un, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus quel est le co-auteur, je ne sais pas si c'est pas Favier, mais bon, je ne suis pas sûr. Et puis, qui a écrit des tas de romans policiers qui se passent dans différents quartiers de Marseille, etc. Mais en fait, il est très très drôle, en fait. Voilà. C'est un mec qui a une grande drôlerie, Jean Contrucci.
Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que, moi j'ai envie de vous demander pour terminer, est-ce que vous avez une recommandation pour les gens qui n'ont jamais lu du Henri Frédéric Blanc, par quel livre ils devraient commencer ? Selon vous, un qui est une bonne porte d'entrée ou un qui vous plaît tout simplement, un que vous avez envie de faire partager ?
Moi j'ai commencé par L'art d'aimer à Marseille, alors j'aurais tendance à dire L'art d'aimer à Marseille, mais c'est vrai que quand on lit... alors, j'ai toujours été attiré par ces romans qui, en effet, d'over littérature, ces romans marseillais. J'avoue que je suis pas un grand lecteur à côté de ça, de romans ou de livres.
Ah, tu lis pas Amélie Nothomb? Ah merde. Bah,
je ne lis que des ouvrages scientifiques et techniques, malheureusement. Mais là, donc, oui, L'art d'aimer à Marseille, Banzaioli, bien sûr. Et puis, bah, Les Bouches d'or aussi, ce que j'ai amené avec moi.
Tu vas nous lire juste après, tu vas nous lire un extrait juste après. Ouais.
Et Fredo le Fada, ça c'est mes petits...
C'est tes chouchous.
C'est mes chouchous. Et puis il y a aussi, bien sûr, celui que tu fais en spectacle, dont je suis en train d'oublier le...
Le livre de Joby.
Le livre de Joby aussi qui m'a... Voilà. Ça, alors, c'est mes préférés.
Ouais, moi j'ai de la tendresse pour chaque livre d'Henri Frédéric Blanc, parce que c'est chaque fois ça représente une époque, quoi. Donc il commence avec l'Empire du Sommeil, qui est l'histoire déjà d'un personnage solitaire qui fait des travaux sur le sommeil pour trouver le moyen de bien dormir. Et dans les
machines à dormir, c'est ça?
Ouais, un truc comme ça. Et la recherche va être volée comment on appelle ça,
capitaliste.
Et donc il va tout détruire et tout. Bon. Mais j'ai une tendresse particulière pour chaque livre, y compris ceux avant la littérature. Mais bien entendu, là où j'étais le plus proche de lui, c'est sur le moment de Ouvert Littérature, puisque c'est Henri Frédéric Blanc qui me fait rencontrer Médéric Gasquet-Cyrus. Médéric Gasquet-Cyrus, qui est avec Jean-Marc Valadier, qui sont les coéditeurs de Choupélan. Et cette aventure, voilà, j'ai participé de près, donc j'ai peut-être encore plus de tendresse pour cela, et puis parce que c'est Marseille, mais en fait, voilà, lisez Blanc, parce que tous ces livres sont formidables. Le dernier survivant de 14 est un livre absolument extraordinaire, c'est aux éditions du Rocher. La mécanique des anges aussi, qui raconte toute l'épopée de l'aviation, 14-18. C'est très documenté en plus, mais c'est d'une grande drôlerie, parce que là, c'est tout le... Sur ces deux livres, d'ailleurs, c'est le regard d'Henri Frédéric Blanc sur la guerre et sur la folie des hommes. Mais bon, il a abordé tous les sujets. Il était critique sur beaucoup de choses. Il y a un livre culte qui s'appelle Le Lapin Exterminateur, voilà, dans lequel il pourfonde tout. Vraiment, c'est un personnage qui part en road trip, qui quitte... la région parisienne, un jour de Noël, qui a plus un rond, c'est un marin qui n'a plus de bateau. Et bon, c'est très iconoclaste déjà, c'est déjà très fort, et on est dans les années 80-90, quoi. Hein.
D'accord.
En fait, ce qui est fort, c'est qu'il s'est donné partout dans ses livres, sans jamais parler de lui, vraiment. Ouais. Mais en fait, il est complètement présent à chaque ligne. Il est conscient tout le temps. L'écriture, lui, c'était un travail énorme pour lui, ça. Il allait au bout de lui-même à chaque livre. Et voilà, c'est donc... Lisez, prenez un blanc, voilà, et mettez-vous dans un coin en vous disant, je vais lire quelque chose qui ne ressemble pas à quoi que ce soit que je connaisse. Mm-hmm. Et lisez-le avec ouverture, détendu, et vous allez passer un bon moment, quoi.
Eh ben, merci pour cette...
Frérot, j'ai une idée.
Oh, vas-y.
On a fait des ciné-concerts, on a fait des trucs, et faudrait faire théâtre et littérature de ficelle.
Eh bien sûr.
On les lit les deux.
Et mais
on,
oui.
On lit les deux, là, et on fait une soirée.
Mais bien sûr.
Hein,
mais bien sûr, je pensais la même chose.
On va en parler après. Hein.
Voilà.
Pas de problème.
Ça marche, hein.
Mais en tout cas, merci pour cette description. Et Chichi va même vous donner un avant-goût, parce que je crois que Chichi, tu as prévu une petite lecture, c'est ça?
Ben oui, parce que ça, c'est ce qui me plaît, hein, de lire les textes d'Henri. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme temps.
Écoute, on prendra le temps qu'il faudra.
On prendra le temps qu'il faudra, super. Alors, là, j'ai Banzaioli entre les mains. Alors, je vais chercher mes marque-tapages.
Non, mais ça déconne, du PQ.
C'est un PQ, son marque-page.
Non, mais frérot, c'est pas possible.
Oh putain, tu as vraiment de la merde aux yeux, toi. Hein.
Alors.
Oh putain, mais qu'est-ce que c'est?
Alors, dans Banzaioli, donc là, c'est Émile Zengaru, dit le samouraï, hein, héros de l'apéro, grand maître du combat au pain dur, qui révèle les secrets qui ont fait sa légende. Et donc, on a une balade dans les établissements marseillais et dans tous les bars-restaurants de Marseille. Henri va faire un petit tour et à chaque fois, on a un petit mot à ce sujet. Donc là, on est au bar-restaurant d'Orléansville. Sur le menu, c'est beignets de grillons sur leur lit de poivron rouge à l'ail et à l'huile d'olive. Je m'attendais au pire, eh ben, c'est délicieux. Mefi, des religions d'Inde. Les déesses à six bras qui te font la danse du ventre, tu sais, soi-disant, on peut se réincarner en n'importe quoi, même en anchois. Après, impossible de manger la pizza. Droit dans les yeux, tu as la trouille que les anchois, nageant dans le coulis, ce soit des âmes en migration, des collègues trépassés. Mon conseil, personne ne s'est jamais réincarné en fromage. Alors la pizza, pour la manger, sans la boule au ventre, commande-la à la mozzarella.
C'est super parce qu'en fait, on retrouve en ce court extrait tout ce dont on a parlé. L'humour, la satire, la musique marseillaise et en même temps des références philosophiques de réincarnation, etc. En une phrase, on a retrouvé tout c'est ce ça. Dont on a parlé.
Et puis, au bar Le Marengo aussi, hein, on a retrouvé ça. Hein, le menu, c'était des feuilles mortes au bal du vent. Au commencement était le verbe. Mais à Marseille, Fada, le verbe, il est aussi à la fin, jusqu'au dernier soupir. Chez nous, on ne meurt pas en fermant les yeux, mais en fermant la bouche. Voilà, alors, peut-être un petit dernier au bar de la Blancarde. Au bar de la Blancarde, pardon.
Prends ton temps.
Mimile. Oblong, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais grise mine. Tu commandes ton jaune d'une voix blanche. Regardez-le, il roule de ses yeux. On dirait un chien en train de chier des noyaux de pêche. Parle! Mais dis quelque chose! Tu ne vois pas que ton silence nous casse les oreilles? Gugu. Un vieux de la Pacoule, c'était. Il allait au marché vendre un matin à 5h du lapin. Moi, je rentrais avec insouciance et ma voiture de l'anniversaire de Francine en jouant la cucaracha au klaxon. Mimile. Ta voiture ne l'a pas vue, c'est ça? Tu l'as écrasée, façon crêpe? T'inquiète, si au boule tu alignes carreau sur carreau, si tu fais régner ta loi au baby-foot, si à la contrée tu mets tout le monde minable, si tu composes l'aïoli comme un Mozart de l'huile d'olive, et si par-dessus le marché aux puces, des fois tu payes la pizza aux collègues, jamais Dégain viendra te reprocher d'avoir fait une victime de la circulation. Un bon pêcheur a le droit d'avoir les mains sales. Voilà, ça c'était pour Banzaioli, du coup. Hein.
C'est très bon. Il y a autre chose que tu veux nous partager?
Alors, ben, peut-être un petit...
Ben oui, tu nous as dit que tu aimais autant cet ouvrage.
Un petit L'art d'aimer à Marseille. Alors, je vais pas dire ce que j'ai lu des milliers de fois, Carpe Diem et Le Pastis, mais là, il y en a un qui vaut le coup, que j'adore. Il est où celui-là? Alors, ça c'est Carpe Diem...
C'est les sardines, voilà. Diem, là, et... Carpe Diem.
Oui, sardines Diem. Sauf qu'on n'a pas de carpe dans le Vieux-Port. Hein.
Voilà.
Alors, si l'Académie de Marseille est d'accord, je propose d'adopter pour mot d'ordre, plutôt que fier d'être marseillais, sardines Diem. Et alors là, il dit, étoile de Marseille, douce amère cagole, sans qui Fossé ne serait qu'une ordinaire métropole. Sans qui les zizi s'endormiraient dans le protocole. Je vous chante envers et contre tout, car même si vous me tuez, la vie c'est vous. Marseille est une grosse moule, mais prodige, cette moule contient des perles. Je le proclamerai même sur le marbre de ma stèle. Je ne serai jamais, oh mes chichinettes, que votre humble poète. Vous êtes des sardines frétillant autour du ferryboate. Je ne suis qu'un pauvre stockfish en boîte, moi qui ai plongé au fond de l'homme. Mon seul rêve est d'être votre chewing-gum.
Magnifique.
Et peut-être, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps.
C'est le chef, c'est celui qui a le micro rouge.
Bah, au pire, on coupera au montage.
Alors, on va se faire une cagole peut-être quand même.
Comment tu parles?
Alors, celle-là... tu couperas si c'est long. Hein. Ah oui, on va parler de foot. Hein. Attends. Voilà. Ça, c'est Rita. Assez de me gaver avec l'OM. J'irai plus au stade. Ça pue et les gens en troupeau, c'est trop vache. Marseille, record du monde des bras cassés. M'étonne pas qu'on aime tant le football. Moi aussi, j'aime le ballon, bien sûr. Mais assez de me gaver avec l'OM. Soit ils perdent, soit ils gagnent pas. T'en as un, il est trop gros du ventre pour voir le ballon. L'autre, il se mélange les pieds. Le troisième, il vient en pantoufles. C'est pas des terreurs, quoi. Le gardien ennemi, rien que de voir nos joueurs, il devrait se manger les couilles, se creuser l'abri atomique entre les poteaux. Moi, j'aime voir des guerriers avec la vengeance dans l'œil, pas des footballocrates. C'est pas que je veux des morts sur la pelouse, mais il y a des limites à la fraternité universelle. Le sport, c'est pas l'humanitaire. Si des joueurs y cherchent la béatitude bouddhique, ils vont à l'Himalaya, pas au vélodrome. Assez de me gaver avec l'OM. Je retournerai au stade quand ça s'attira la poudre. Pas la poudre aux yeux, ni la poudre d'escampette, mais la poudre à canon. Quoi.
Excellent.
Il y avait un truc qu'il avait relevé un jour, c'est dans les archives, des fois, il entendait des trucs et puis il les retranscrivait quasiment tel quel.
Pêle-mêle, ouais.
Et donc, il y a un jour où je crois, je ne sais plus de quel côté il était, et il entend deux mecs qui parlent, il y en a un qui fait « Ah, tu as vu, l'OM a gagné hier ». L'autre, il fait « Ouais, mais on a gagné contre personne ». L'autre, il fait « Ouais, mais des fois, contre personne, on perd quand même
». Mais tu vois, moi, j'entendrais cet échange à côté de moi dans le car ou quoi, je ne serais pas surpris. Hein, c'est tout à fait normal.
Ouais, ben oui, il y a un truc qui fait que, par exemple, moi, quand je joue le livre de Joby, ça va, les gens rient parce qu'il y a des choses très marrantes. Mais là où ça rigole le plus, c'est en fait, j'ai joué une fois en région parisienne, parce que, bon... On a tellement, nous, l'habitude d'entendre ce langage que, bon, finalement...
C'est normal.
On sourit, voilà. Mais quand tu vas le jouer ailleurs, ça marre vachement, quoi.
Ah, j'imagine bien. Les amis, je vous remercie très chaleureusement d'être venus et de nous avoir parlé de Frédéric Blanc comme ça, parce que c'était super. Donc, vraiment, un grand merci et grand Aïoli.
Ben, grand merci à vous d'avoir pensé à faire cet hommage. Et j'espère qu'il sera suivi d'autres ailleurs, parce que... Plus que jamais, c'était quelqu'un qui le méritait, non seulement en tant qu'écrivain, mais en tant qu'homme. Voilà. Parce que c'était vraiment un homme passionnant, érudit, cultivé, mais surtout d'une grande humilité, d'une grande timidité, et qui est allé au bout, non seulement de ses projets littéraires, mais aussi de sa philosophie de vie, de sa façon de concevoir, etc. Voilà. Vraiment, c'est quelqu'un d'énormissime.
En tout cas, voilà, merci Chichi d'être venu.
Grand merci à vous, Aïoli sur tout le monde.
Aïoli.
Les amis, Radio Le Chourmeau, c'est pas fini. On continue, je vous l'avais annoncé, avec l'interview de Mousse Hakim, ancien chanteur de Zebda, vous connaissez bien. Voilà, qui nous parle un petit peu du concert pour la paix, vous savez, dont on vous a parlé moult fois, on a fait gagner des places. Donc, un petit retour sur Mousse et Seb qui représentent le casier des cheminots. Et on enchaîne juste après l'interview avec une chanson de Mousse et Hakim, Le Lécaillé. Et alors, pour la petite histoire, c'est la nièce de Nougaro qui leur a donné les paroles alors que la chanson n'avait jamais été éditée. Et en fait, pour eux, ils racontaient que, en tant que d'origine kabyle, Le Lécaillé, c'est quand même quelque chose qu'ils ont tété depuis l'enfance. Et quand ils ont vu que la nièce de Nougaro leur envoyait une chanson sur Le Lécaillé, ils se disent « Mais c'est pas possible, il a écrite pour nous. » Et donc, voilà, ils ont eu le droit de l'enregistrer, de la jouer. Voilà. Donc, interview de Mousse et Seb. Et ensuite, juste après, musique, Mousse et Hakim, Le Lécaillé. Yes, et du coup, on est avec Mousse pour le concert pour la paix et Seb pour le quasi. Donc Mousse, bon, je le présente pas, vous le connaissez les collègues, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ce concert. Et Seb du Casier des Cheminots, qui est plus pour la partie organisation. Salut les amis.
Salut, bonjour.
Salut. Bon déjà, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit interview avant le concert. Je sais que c'est pas le plus pratique, mais merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, déjà, voilà, moi j'ai envie de te demander, c'est la première fois que tu viens au Sismic ?
C'est la première fois que je viens au Sismic.
Ouais.
Aix-en-Provence, non, c'est pas la
ouais,
première fois.
Ouais, Aix-en-Provence, hein. Je sais que tu étais déjà venu.
Non,
ouais.
Sismic, c'est une salle assez récente. Quoi,
ben ouais, c'est pour ça.
5 ans, je crois.
Ouais, à peine. Ouais, à peine. Moi, j'étais venu quelques fois déjà. Franchement, c'est pas trop mal. Hein.
Ouais, non, ouais, écoute. Ouais, c'est bien. C'est important qu'il y ait des équipements comme ça sur les territoires.
C'est ça manque. C'est
ça manque. Puis c'est de qualité, tout ça et tout. Ça devait manquer, j'imagine.
Hein, ouais. Bon. À Aix, en fait, il y avait beaucoup, tu sais, de petites salles en ville. Mais il n'y avait pas de salles avec plus d'importance, quoi. Voilà.
Et je pose la question aussi, parce que du coup, c'est la première fois que le Conseil pour la paix est au Sismic.
Ah oui, c'est la première fois qu'on délocalise, hein, comme on dit. Hein, on délocalise de Marseille à Aix, on ne va pas super loin.
C'est compliqué quand même.
On a quitté les docks pour venir au Sismic, voilà, pour offrir aussi aux artistes un autre cadre. Et puis, c'est un challenge de se dire, on va sortir un peu de nos habitudes. Et puis, on va réaliser cet événement un peu ailleurs. Et les cheminots, ils vont être présents quand même.
Ouais, mais c'est pas mal quand même. Moi, je trouve que franchement, la soirée est pas mal. On retrouve les stands, on retrouve ce qui nous est kiffé au doc, en fait. Enfin, moi qui suis allé aux autres concerts, moi, j'ai retrouvé ce que j'avais kiffé au doc.
En fait, ce qu'on met un petit peu comme ingrédient, c'est de se dire, voilà, on met tout le monde dans le même bocal.
Yes.
On est chacun de notre côté. Souvent, on milite chacun de notre côté dans nos associations. Nous, on est des syndicalistes aussi, donc on a aussi des difficultés.
Bien sûr.
Et l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on peut se faire au moins une fois, se mettre tous ensemble au même endroit, réfléchir ensemble sur ces trois valeurs, la paix, l'humanité et la solidarité, et surtout essayer de faire venir des gens pour les sortir un peu du marasme actuel, quoi.
Bien sûr.
Voilà, je pense qu'ils sont vachement mieux ici que devant CNews, C8 et toutes ces conneries, quoi. Franchement, on est vraiment bien ici, quoi.
Aïe, et Mousse, pour toi, du coup, on est quasiment à Marseille. C'est plaisir pour de Toulousains quand même de revenir.
On n'est pas tout à fait à Marseille, non, je rigole.
Un petit peu quand même.
Un petit peu quand même. Non, mais nous, de toute façon, c'est vrai qu'on a une relation particulière avec la région PACA. Hein,
voilà, ça, c'est ça.
C'est sûr que c'est un lien presque familial, je dirais, plein de niveaux, au niveau amical, au niveau musical, au niveau militant. On a toujours ici trouvé des énergies qui nous parlent, des énergies... auquel on a envie d'être associé, quoi. C'est-à-dire quand on est dans ce genre de dynamique, d'énergie, ou quand on vient à chaque fois faire de la musique dans le coin, on se sent à notre place, quoi.
Et du coup, ça s'est passé comment, le rapprochement avec le casier des cheminots? Comment s'est fait les premiers échanges? C'est eux qui vous ont contacté?
Oui, c'est eux qui nous ont contactés, mais on avait déjà joué donc pour le casier cheminot à Avignon, c'était 2018, voilà.
D'accord.
Et après, dans le cadre de la... Bon, je pense qu'il y a aussi une complémentarité un peu évidente, c'est-à-dire humainement, les valeurs politiques, ça me paraît évident, mais aussi
les combats,
les goûts musicaux. Bon, quand je vois la programmation des précédents de fêtes, il n'y a que des artistes que j'apprécie, quoi. Enfin, que j'apprécie. J'ai des goûts très éclectiques, mais là, on est quand même dans un registre qui est celui
qui est proche.
Qui est proche, quoi. Que ce soit les Massilia ou les Danakil ou les gens comme ça.
Ouais, Sensei aussi, une année, ça.
Tout à fait. Sensei, bien sûr, et tout. Donc voilà.
Oui, tout à fait. Nous, quand on recherche les artistes, on les recherche surtout pour les valeurs, quoi.
Bien sûr.
Quand on organise un concert avec des valeurs fortes, il faut aussi que les artistes sachent pour qui ils jouent, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Alors pourquoi ils jouent? Les trois valeurs, et aussi pour qui? Parce qu'on n'est pas un organisateur comme un autre. En fait, nous, on n'est pas une boîte de production. On est un CE.
Mm-hmm.
Alors, les CE, c'est souvent vu en tout cas de l'extérieur, comme ceux qui organisent les arbres de Noël ou qui font que le ticket de ciné, il a 3 balles au lieu de 7 balles.
Oui, voilà. Les voyages des enfants, quoi. Les
enfants, les colonies. Alors, on fait ça.
Mais c'est super aussi.
Par contre, on a la chance de pouvoir faire aussi autre chose et de proposer ça. Voilà. Alors, tant qu'on a les moyens de le faire, nous, on le fait. On essaye de le faire au mieux possible. Et quand on est entouré de partenaires et d'artistes qui sont engagés et qui partagent les mêmes choses, ça donne les 4 éditions
précédentes.
Puis ça donne cette édition qui va résonner fort, je pense.
Et moi, ce que je ressens en vous écoutant et quand même en m'ayant intéressé à ce concert, j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus rare ce genre de soirée où on met en avant quand même des démarches caritatives, associatives et militantes, en fait. Et j'ai l'impression quand même que ce genre d'initiative que vous avez, on en voit de moins en moins quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Si on peut comparer ça à un festival, des festivals sur plusieurs thèmes, il en existe plein, en fait. En fait, quand on cherche un petit peu, il y a toujours des thèmes dans les festivals. Alors, c'est beaucoup écologie, il y a plein de thèmes. Mais en fait, ce qui est dur, c'est de faire sortir les gens, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est de faire sortir les gens. L'accès à la culture.
Tout à fait.
Enfin, nous, ce soir, on propose le concert gratuit pour les cheminots. Et à l'extérieur, 10 balles, quoi.
Ouais.
10 balles en prévente, 15 balles sur place, voilà.
C'est quand même pas cher, hein.
Non, parce que maintenant, sortir un concert à 30 balles, 35 balles, enfin c'est plus donné à ouais. à beaucoup de personnes quoi.
Mais c'est vrai, en plus c'est devenu la norme maintenant hein. 30-35 balles c'est devenu
Mais parce que le système économique ne permet pas de faire autrement. Nous oui. on est dans un système économique où on fonctionne avec un système de subvention qui nous est donné par la SNCF pour organiser les activités sociales. Donc quand on a les moyens de faire autrement, on fait autrement, voilà, et ça on y arrive. Et alors je sais pas si on y arrive bien, mais en tout cas il y a d'autres modèles économiques qui arrivent, et c'est ceux-là qu'il faut mettre en avant, parce que s'il y avait des subventions plus importantes,
bien sûr,
on pourrait développer ce type de système. Ah oui. Et si on arrêtait de faire des coupes sombres également dans le budget de la culture,
tout à fait.
On pourrait aussi organiser d'autres types d'événements.
Mais tout à fait.
Donc voilà, c'est aussi le message qu'on va faire passer en disant oui, c'est possible.
Bien sûr.
Oui, oui, c'est vrai que c'est une réalité. Ce constat, il faut le regarder en face. Et, c'est que la valeur politique d'événements culturels, d'événements de musique comme cela, elle est évidente. Alors donc, ce qui est clair, c'est que quand sur les modèles économiques justement de la culture, on insinue que la culture doit être absolument rentable, on est à côté de la plaque.
Tout à fait.
Parce que ça a une valeur qui est au-delà de la rentabilité économique, ça a une valeur dans le processus démocratique, quoi. Enfin, je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est sûr qu'il y a une adversité qui doit sûrement rendre les choses un peu plus difficiles pour les gens qui pourraient avoir envie d'organiser ça sans avoir forcément les moyens. Mais je pense que ça a lieu dans des alternatives. En fait, tu vois, ce qui est intéressant pour nous, en plus, qui avons 35 ans de carrière, enfin, on est un peu dans la lignée des Massilia qui sont à 40 et tout ça et tout, on a, nous, démarré dans l'alternative.
D'accord.
Et comme nous, ce qu'on pense, c'est que l'alternative d'hier ou l'alternative d'aujourd'hui est la norme de demain, quoi. Donc, l'alternative d'hier était la norme d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il doit y avoir des alternatives qu'on ne voit même pas. Enfin, on n'est pas forcément au courant
ouais.
parce que c'est peut-être plus moins visible. Quand on a la chance d'avoir des événements comme celui-là, c'est aussi des événements qui ont la puissance militante, la puissance aussi de l'organisation, quoi. C'est-à-dire avec la logique de la SNCF, la solidarité avec les salariés, en fait, tout ça quand même, c'est pareil.
Bien sûr, bien sûr.
Mais voilà, donc je pense que faut regarder l'alternative aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que si on regarde que la norme, c'est sûr que dans la norme, on ne le trouvera pas.
Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression que du coup, ça c'est un peu, à l'image de toute votre carrière, un peu ce genre aussi de recherche de l'alternative, mais aussi de démarche politique et militante. Vous avez quand même pas mal de textes aussi qui sont sur cette lignée-là. On est droit dans vos thèmes aussi, là, quand même.
Ah oui, complètement, on est dans nos thèmes. Et puis c'est vrai que nous, on est là parce que quand on a commencé à faire de la musique, c'est une des questions qu'on s'est posées. Quel type de chanson on a envie de faire? Alors bon, moi, j'ai rien contre les chansons d'amour. C'est très important, les chansons d'amour.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais moi, je ne me sentais pas de faire ça. Voilà, c'est tout, quoi.
Bien sûr.
J'étais à l'aise dans l'idée que je pouvais jouer ce rôle-là parce que j'avais des icônes qui étaient Marley, Myriam Makeba, Matou Blounès, des gens, Linton Kwesi Johnson, en fait, des gens qui tu te dis, ouais, le mec, là, ça fait du bien de ressentir ça, quoi.
Tout
de ressentir ce rendez-vous, quoi, en quelque sorte, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve finalement dans cette logique-là, petit à petit. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le parcours, on commence à faire des chansons d'amour.
avec les années d'expérience, en fait.
Exactement,
c'est ça.
On est un peu détendu avec ça.
Et Seb, tu peux nous parler aussi un peu de la première partie, puisqu'il n'y a pas que Moussaki aussi.
Oui, bah, la première partie, on met toujours un point d'honneur à mettre les cheminots en avant.
C'est pour ça que je te pose la question. Ouais.
Donc en fait, on a autour du CASI ce qu'on appelle le tissu associatif.
Mm-hmm.
Et dans ce tissu associatif, le CASI met à disposition des studios d'enregistrement, enfin des salles pour que les cheminots fassent de l'art. Et il se trouve qu'il y en a qui font de la musique. Voilà. Donc ce groupe de cheminots qui est là ce soir, c'est un groupe de cheminots qui joue dans un studio, dans une installation du CASI, et puis qui vient se produire. Alors, petit clin d'œil quand même, c'est un groupe de Toulouse aussi, Rosa Canine. Donc on a
d'accord, vous avez fait exprès soirée toulousaine.
En fait, on n'a pas fait exprès parce que pour tout te dire, on a pioché nous dans nos groupes depuis 4 ans.
Mmh.
Et là, je voulais faire participer les autres quasi en fait.
D'accord.
Donc
okay.
J'ai proposé aux copains des autres quasi de dire, est-ce que vous avez des groupes dans vos quasi? Chacun a postulé, on a regardé et ping,
ça tombait bien, la connexion toulousaine. Quoi.
Le poil, quoi. Voilà. Bon. Donc on met en valeur aussi les cheminots, ils sont des travailleurs du rail, ils font très bien leur travail, mais
tout à
côté
fait.
Ils font pas que ça, ils ont aussi des loisirs.
C'est des personnes aussi, exactement.
C'est des créatifs. Et dans le rôle aujourd'hui, on a aussi un peintre. Voilà,
on l'a vu, c'était super simple, c'était hyper beau. Bon, je comprends que j'ai bien fait de pas mettre mon maillot du RCT alors.
Mais tu aurais pu.
J'aurais pu.
Pourquoi il est.
C'était club de Toulon, tu veux dire. Et qu'est-ce qu'il a là, il est quoi,
Toulouse, RCT.
Tu sais que là, on n'est pas du tout inquiet.
Non, je me doute. Je me doute que là, c'est pas la bonne période. Et ben, en tout cas, ben, merci beaucoup. Et merci pour terminer, c'est quoi un peu votre actualité? Donc là, est-ce que vous êtes en tournée? Est-ce que vous avez projets un petit peu?
En fait, on est en fin de tournée. Et puis en même temps, nous, on est un peu en tournée permanente. Hein, parce D'accord. que la scène, c'est quelque chose qui est important même pour notre créativité. Donc là, on est dans une période d'écriture. Et donc, on est en train de préparer la suite. On va très certainement être en studio d'ici un mois ou deux.
D'accord.
Enfin, voilà, là, on finalise quasiment la base de l'écriture des nouveaux projets.
Bon, ben,
donc, voilà.
On attend ça avec impatience.
Merci.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Aïeul et les amis.
Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers quand il ouvre l'huître mouillée. Je me souviens du lait caillé et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais noir écolier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé que je tendais noir écolier entre mes doigts pleins d'encrier. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Il arrivait dans l'avenue, sur sa charrette bienvenue, poussé par la femme célèbre, à la sonore voix de chèvre. Elle se mettait à brailler, le lait caillé, à travers les persiennes à moi zèbre, je filais vers son tablier. Elle me versait le lait caillé, dans un récipient émaillé, que je tendais noir écolier, entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé que je tendais noir écolier entre mes doigts pleins d'encrier. Oh, je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait. Inoublié, du lait caillé, mais un détail me vient aux lèvres, le lait caillé n'est pas de chèvre. La saveur fraîche inoubliée, du lait caillé, j'ai commis une erreur de pis, le lait caillé, lait de brebis.
Et on est de retour, toujours sur Radio Chourmeau, sur Radio Galère 88.4 FM. Alors avant de vous passer l'interview de Jack Dish qui va nous parler de lui-même et du Balletti des Rails, Renaud va nous donner quelques infos et vous présenter un peu cet événement. À toi la parole, cher ami.
Donc ben, le Balletti des Rails, c'est l'événement que fait tous les ans le Camino Boulégan depuis 2014. Je crois qu'il y a une année Covid où on n'a pas été fait. Voilà, cette année, il se déroulera à l'intermédiaire. à partir de 21h30. La soirée sera ouverte par le Bast, qui est accompagné, alors j'ai oublié le nom, de Quentin. Voilà. Et qui attaqueront la première partie. Et après, il y aura Jack Dish Connection avec, ses, avec Jack Dish Kinou, qui est accompagné de trois musiciens.
Voilà. Alors, c'est combien la place?
C'est tarif libre, comme d'habitude.
Voilà.
Voilà. Et comme souvent au Balletti des Rails, c'est tarif libre. Et c'est à partir de 21h30 à l'intermédiaire sur la plaine.
Voilà. Les amis, on se quitte donc avec interview de Jack Dish qui nous parle de lui et du Balletti évidemment. Et on se quitte avec une musique ensuite de Jack Dish Connection, Le Grand Voyage du Nègre Maigre. Les amis, on se quitte donc avec cette interview et en musique. Je remercie grandement nos invités qui sont venus, ça a été super. Les amis, bye bye. Grand Taïoli, merci beaucoup et on se retrouve nous le mois prochain. Aïoli.
Yes, aïoli à tous. Et donc, on est avec le frérot Jack Dish qui va nous parler du Balletti des Rails. Bah déjà, Jack Dish, merci de répondre à mes questions. C'est ta première fois sur Radio Tchourmo?
Je vous dis un gros rougaïoli à la Radio Tchourmo.
C'est ça?
Oui, c'est la première, mais ce sera pas la dernière non plus. Hein.
Non, ce sera pas la dernière. Tu as suivi un peu ce qu'on fait?
Oui. Écoute, je n'ai pas tout le temps à écouter, mais je pense que c'est un bon, c'est une bonne action. C'est une radio libre et pour faire promouvoir la culture marseillaise et la région et internationale aussi.
C'est ça.
Mais déjà, c'est bien de s'occuper du local.
Exact.
Et big up les gars et bonne continuation Radio Camino Boulégan.
Yéba. Yes, merci beaucoup, un grand aïoli. Alors, du coup, on l'a dit, cette année, on t'interview parce que tu animes donc en tête d'affiche, j'ai envie de dire, le Balletti des Rails. Tu l'avais déjà, t'avais déjà fait le Balletti des Rails, mais avec Dancehall Balletti, c'est ça?
Ouais, c'était le premier avec, je crois même que c'est le premier
je crois aussi,
Balletti
hein.
des Rails.
Je crois aussi.
Avec l'équipe à l'époque, il y avait le sound system Balletti, Dancehall Balletti, avec l'homme Dragon, Big Up.
Aïoli.
Et l'homme qui s'appelle Luz Gain et Janvier,
Aïoli sur eux.
Master Sound System, et moi-même. On avait monté un collectif On tournait à l'époque dans cette conception, dans cet collectif.
Yes.
Et c'est pour ça qu'on a pu faire ça pour voilà. Jouer pour Balletti des Rails.
Voilà. Et donc là, pour la formation, c'est toi et plusieurs gars, c'est ça?
Là, c'est mon travail personnel. C'est un travail que j'ai commencé depuis une trentaine d'années sur Marseille.
Yes.
Comme je suis de l'île Maurice, j'ai une culture musicale qui est atypique comparée au rythme occidental. Et ma présence ici aussi de partager et aussi d'apporter cette richesse,
yes.
Cette musique qui s'appelle le Sega, qui vient de l'océan Indien,
et oui.
Alors, qui est jouée dans toutes les îles créoles de l'océan Indien.
Voilà.
La Réunion, Maurice, Seychelles, Rodrigue, Madagascar.
Alors c'est quoi un peu ce qui fait la particularité du Sega pour les gens qui ne connaissent pas?
Ben tu sais, la particularité du Sega, c'est un rythme qui est joué en trois temps, c'est ternaire déjà.
Yes.
Et le rythme, il n'est pas en 4-4 comme en Occident.
Ouais.
C'est un rythme qu'on appelle le 6-8.
D'accord.
Qu'on trouve beaucoup au Maghreb et on trouve aussi dans le sud de l'Italie pour la pizzicata, toute la musique traditionnelle.
Yes, tout à fait, ouais, je
et
vois
beaucoup
très bien.
De musique traditionnelle, ils ont le 6-8.
Ok.
Après, chaque coin, ils ont l'accent différent.
Et leur spécificité. Mais ça doit changer quand même, franchement. 6-8, ce n'est pas un rythme banal qu'on a l'habitude aujourd'hui dans la musique.
Ben,
on va dire,
je crois que c'est une continuité d'enrichir la musique marseillaise, surtout là où je vis, d'apporter cette touche et qui embellit l'affaire et qui a grandi aussi notre potentiel rythmique.
Yes. Et donc c'est super parce que ça me permet aussi de poser un peu des questions sur toi. Toi, tu as grandi dans cet univers-là, en fait.
J'ai grandi jusqu'à l'âge de 23 ans à l'île Maurice.
Yes.
J'habitais dans une cité qui s'appelait la cité Barclay. C'est un vivier de la musique traditionnelle, des ségatiers, des gens qui composent, etc. Et le Sega, c'est une musique des esclaves.
D'accord.
Donc, ça vient de mes ancêtres, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est toujours en ébullition, en évolution à l'île Maurice. Parce qu'elle est jeune, elle n'est pas très très vieille comparée à l'ère de la Terre.
Bien sûr.
Et des autres musiques.
Yes. Mais tu as parlé du quartier, des ancêtres. C'est un environnement familial aussi. Tu as grandi avec de la musique autour de toi?
Ouais, c'est que ça.
t'es tombé dedans quand tu étais petit,
ouais,
en fait.
Quand je le disais, mon quartier, la cité Barclay, à l'île Maurice, tu arrives, tu dis, tout le monde connaît, il y a beaucoup de stars, beaucoup, beaucoup de gens, des compositeurs, des musiciens.
Yes.
C'est un quartier beaucoup rempli avec des artistes, quoi. Pas des artistes, mais je sais pas, des gens qui pratiquent le cega.
Ouais.
Et des danseuses, tout ça.
Ok. Et donc, tu nous as dit, voilà, que tu es arrivé à Marseille dans ta vingtaine, c'est ça? Et toi, comment ça a été ce passage de la musique à l'île Maurice, que tu connaissais, dans laquelle tu avais grandi, et découverte à Marseille, dans notre univers? Comment toi, ça... J'imagine que ça a dû être excitant quand même pour un jeune homme qui arrive là-dedans.
Non, oui, c'est excitant, mais j'étais un peu perdu quand je suis arrivé. J'ai vu qu'il y avait cette manque.
Ouais.
Et puis, j'étais pas venu pour la musique non plus, pour apprendre le cega au Marseillais. J'ai eu la chance d'avoir été ami avec Moussuté, Papédji, et là, le Massilia Sound System est monté.
D'accord.
C'est là que j'ai commencé à mettre mon nez dans la musique, comment il se fait à Marseille, en Europe.
D'accord.
C'est quoi la musique, etc. Et là, j'ai compris aussi petit à petit qu'il n'y avait pas de rythme. et on prenait la musique qui venait d'extérieur.
Ouais.
Et c'est pour ça que je me suis trouvé avec à être fondateur du Massilia Sound System. C'était un coup de... peut-être à l'époque, c'était côté... revendicateur, jeune, je finissais mes études, un peu révolté, quoi, et toujours penchant à gauche.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est ça qui m'a emmené à découvrir ma richesse que j'avais en moi, où j'ai grandi, mon université mauricienne.
D'accord.
C'est grâce à d'avoir monté ma Massilia Sound System, c'est pour ça que j'ai resté un peu avec ma Massilia Sound System. Après, j'ai parti à l'île Maurice pour approfondir ma...
Tu as fait un retour aux sources, en quelque sorte.
J'ai fait un retour aux sources. Lorsque Massilia a été montée, je crois que j'ai fait un an et demi, etc.
Mm-hmm.
Je suis sur le premier album.
Ouais.
Et après, je suis parti. Et là, j'avais compris que moi, c'était le cega qui m'importe le plus.
Yes.
Si je dois donner quelque chose aux Marseillais, ce rythme est le cega.
Yes. Et alors, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je repense à la chanson que dans Dancehall Balletti, où tu chantes « Je t'aime Marseille ». Et donc aujourd'hui, tu considères que le cega, ça fait partie aussi du paysage marseillais?
Ben, Marseille, il accueille différentes communautés, différents peuples de la planète, un peu. Et
c'est
je dis que quand on arrive dans un pays, ce qu'on apporte, c'est la culture qui est en nous. C'est parce qu'il y a dans notre valise qui est important.
Fait.
Et du coup, comme je suis musicien, j'avais compris que c'était ça que je dois offrir aux Marseillais.
Yes.
Et j'ai compris aussi que Marseille était au bord de la Méditerranée et qu'il y a nos amis maghrébins, africains, surtout les maghrébins. Il y a beaucoup de ce rythme. Le rythme nawa, c'est proche de la musique sega.
D'accord.
Nawa.
D'accord.
D'accord. Et du coup, Marseille s'était prêté à ça.
Et ouais, en fait,
j'ai trouvé l'endroit idéal.
Ouais, voilà, c'est ça, tu es tombé au bon moment. Mais c'est fait par hasard, parce que tu me l'as dit, tu n'es pas venu pour la musique en fait à Marseille.
Non, je ne suis pas venu pour la musique à Marseille. Je suis venu comme tout migrant même. Je suis venu au départ pour des études.
D'accord.
Et après, je restais comme migrant, voilà.
Et aujourd'hui, tu chantes Je t'aime Marseille.
Je chanterai toujours Marseille parce que j'ai eu un bon accueil. J'ai trouvé vraiment mon port d'attache.
Yes.
C'était vraiment le pays adopté important, quoi, parce que quitter son île,
mm-hmm.
ben, je me trouve une belle ville.
C'est pas mal, c'est très bien, puis la rime est belle. Et donc tu nous as dit, voilà, que tu avais commencé avec le Massilia, tu es sur le premier album, et après donc tu nous as dit tu as voulu faire tes trucs à toi pour faire du cega, en fait, faire ta musique.
Pour faire comprendre le cega à travers moi. Ouais.
Voilà, et donc ça a été tes projets au fur et à mesure des années.
Exact. Et depuis, je travaille que sur le cega et parfois je participe dans les sound systems. J'aime bien la tchatcha
marseillaise.
Mais mon travail principal, c'est vraiment le développement de donner au maximum, de faire comprendre le cega et jouer, faire des ateliers, participer dans des jams avec d'autres musiciens et d'autres contrées qui viennent de Marseille. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
Et c'est ça, j'imagine, parce que je sais que tu as fait aussi des concerts un peu en acoustique avec d'autres chanteurs. Il y a quand même... Enfin, c'est un élément pour toi aussi, cette espèce de fusion, en fait.
Parce
avec
que comme j'ai la racine de musique traditionnelle et musique trad, du coup, je peux fusionner avec tout le monde.
Yes.
Et j'ai un point d'attache que je peux partir dans n'importe quelle direction, je reviens tout là-dessus. Et là, la dernière création que je fais...
Voilà, j'allais te demander.
Donc, tu es au courant, qui s'appelle un projet Créoloque. Depuis longtemps, je voulais vraiment rencontrer les Occitans, les gens.
Yes.
Pourquoi les Occitans ? Parce que j'habite à Marseille et je voulais connaître la vraie musique qui portait de ce coin, cet endroit particulier.
Yes.
Petit à petit, mais là aussi, c'est pour ma science en système que j'ai découvert qu'il y avait une musique traditionnelle, la musique occitane, etc. Et je commençais à écouter, à rentrer dans cette vibration occitane.
Yes.
Du coup, petit à petit, là, je me dis, avec les chansons traditionnelles occitanes et mauriciennes, on peut faire une fusion. Une fusion positive, pas une confusion.
Tout à
c'est
fait.
Pour ça, ça prend du temps.
Tout à fait.
Et là, on a fait un groupe qui s'appelle Cas d'Aelia, avec deux chanteurs, un chanteur et une chanteuse, moi-même, du côté qui représente mauricien, et l'accordéoniste Laurent Sartou, qui joue l'accordéon avec nous, qui vient d'Auvergne aussi, pareil, qui est trompé dans celui-là.
Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous avez déjà...
Ben là, on a joué déjà, c'est un nouveau projet tout frais.
Ok.
Il est en rodage. Et du coup, on a fait deux concerts qui étaient un bon succès.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont vus, nous ont dit, il faut commencer parce que continuer, c'est...
Parce que c'est trop bien.
Moi, je veux dire que j'aime bien. Après, c'est l'oreille des autres qui
bien
me
sûr.
Dit que je vais te le dire. Mais le contexte, il est super sympa parce que c'est un rite avec des mélodies occitanes que beaucoup connaissent ici, des vieilles traditionnelles, et aussi des
refaits.
Du coup, il y a un superbe portage, un superbe de fraîcheur.
Yes.
Vraiment, c'est l'évolution. Et je me sens très bien dans ce projet apporté à Marseille.
On te sent à l'aise, même comment on t'en parle. On sent que c'est quelque chose que tu kiffes, en fait. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher.
Moi, je ne voulais pas faire du reggae, ou du funk ou du hip-hop, etc. à Marseille. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il existe ici déjà, qui existait, qui pour le garder en survie, quoi, pour le garder là. On est des gardiens du temple, quand on est artiste.
Yes. Et voilà. Et
là, au Baletti, je présente mon groupe avec qui je tourne. Ça s'appelle Jobless Connection. Là, c'est du Sega.
Mm-hmm.
Mais 80% a été composé à Marseille. Il y a même qui a été enregistré à Marseille même.
Okay.
Et après quelques covers à la mauricienne, mais la majorité des titres qu'on va jouer, qu'on joue, c'est des titres qu'on appelle Sega Marseillais.
Yes.
Parce que c'est une couleur appropriée d'ici.
En fait, c'est comme si tu avais fait ton genre à toi, quoi. En picorant un peu à droite à gauche tes origines, ce que tu as découvert, tu avais fait un peu ton genre à toi.
Oui, sauf que la chance que j'ai avec cette formation Jobless Connection, on est à 90% des gens qui viennent de l'océan Indien. Réunion
d'accord.
Maurice.
Donc vous avez.
Il y a qu'un Marseillais qui est Laurent Sartou qui nous accompagne.
Mais du coup, vous avez un peu ce langage commun, quoi.
C'est là que tu découvres la culture, qu'est-ce que c'est, quoi.
Tout à fait.
Tu n'as pas besoin de parler 50 000 fois. Il n'y a qu'une langue et du coup, que tu le sens. Et on appelle en anglais ça le feeling. Et nous, on appelle ça le ressenti. Quand le ressenti est là, c'est très très bon.
Aïe.
Et ça va très vite et c'est qui donne le groove.
C'est ça, voilà. Et ben on a hâte, on vous rappelle le 15 mars à l'intermédiaire. Et tu as une connaissance aussi en première partie ?
Ben oui, c'est le fils à ce qui paraît de Blue, mais là on va se retrouver en famille.
Et ouais.
Big up à Balas.
Et le Bast.
Écoute, je crois que c'est une belle soirée.
Ben c'est ça.
Ben parce que c'est une soirée avec des jeunes. Mais figure-toi, notre bassiste, il est aussi jeune, il a 23 ans.
Oh, pitchoun. Yes, et ben franchement, merci beaucoup, on a très hâte. Rappelle-nous ton groupe pour ceux qui veulent écouter avant de venir, le nom.
Vous allez sur YouTube, Jagdish Connection.
Voilà, Jagdish Connection, vous aurez un petit peu un avant-goût de ce que vous trouverez au Baletti. On rappelle, le 15 mars à l'intermédiaire. Jagdish, merci beaucoup.
Rugaioli.
Aioli.
Sur le flot calme du cargo qui trace sa route vers Bornéo. Et dans la soute fleur est nègre, nègre, maigre, maigre, nègre, dans les eaux, sans vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Moi vouloir voir le grand bateau qui crache le feu répand sur l'eau. Et sur le pont, moi j'ai dormi, et puis bateau il est parti. Le capitaine a dit comme ça, nègre au charbon il travaillera. Woyo, 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 woyo. Bon Dieu, bon Dieu, ça c'est pas gentil. Moi pas vouloir quitter pays. Bon Dieu, bon Dieu, ça c'est pas gentil. Moi pas vouloir quitter pays. Et aujourd'hui ça ronde à travers le monde. Le monde est grand, toujours des ports, toujours plus loin encore des ports. Et dans la soute pleure un nègre, un nègre, maigre, un nègre, maigre, dans les eaux, sans vouloir trouver la peau. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Pays à moi très loin sur l'eau, toujours aussi comme dans l'enfer, jamais pu voir danser la mer, jamais pu voir le ciel bleu, le pauvre nègre fatigué. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Bon Dieu, bon Dieu, ça c'est pas gentil, moi pas vouloir. Sur la mer calme dans la nuit claire, il voit des palmes. Alors il crie, c'est mon pays, et dans la mer il a bondi. Et dans la vague chante un nègre, 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 dont les eaux sans vouloir trouver la peau. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Et bien bon Dieu, viens mon moi pas pouvoir nager toujours, pays trop loin pour arriver, le pauvre nègre fatigué. Ça y est fini, adieu bon Dieu, adieu pays, tout le monde adieu. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Bon Dieu, bon Dieu, ça c'est pas gentil, moi pas vouloir. Bon Dieu, ça c'est pas gentil.